L'émission qui va suivre est une rediffusion. Restez à l'écoute.
Ce sont des espaces qui sont des sources de nourriture pour les populations qui vivent autour de la vallée du Sitatunga. Pour préparer à la maison, il faut aller chercher du bois pour pouvoir faire le feu. Pour avoir de la viande, il faut aller chasser, il faut aller tuer des animaux. Pour gagner de l'argent, il faut aller tirer des feuilles, du bois pour aller vendre. Sans contribuer au développement économique et social de ces populations qui vivent autour de la vallée, nous ne pouvons jamais arriver à atteindre cet objectif de conservation et de préservation des ressources de cette aire protégée. Notre vision, c'est que les communautés puissent vivre décemment en harmonie avec la nature.
7 milliards de voisins, avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, reportage au Bénin, dans le parc naturel communautaire de la vallée du Sitatunga. On est presque aux portes de la capitale, Cotonou, avec une question cruciale. Comment concilier la préservation de la nature et le développement économique des habitants? Un défi urgent pour le Bénin, considéré comme l'un des pays les plus vulnérables aux effets du changement climatique, notamment à cause de l'érosion côtière, selon les Nations Unies. Surpêche, braconnage, déforestation, dégradation des sols, pas de doute, l'activité humaine est en grande partie responsable de l'érosion de la biodiversité et ça crée donc par ricochet l'appauvrissement des populations. Alors comment protéger l'environnement et les populations locales dans la vallée du Sitatunga? C'est un reportage de Raphaël Constant. Bonjour Raphaël.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes rendu dans cette aire naturelle protégée qui est située au sud du Bénin, donc le Sitatunga. C'est pas facile à prononcer.
Et oui, il s'agit en fait d'une antilope aquatique, Emmanuel, qu'on trouve dans cette réserve protégée. Et on trouve également plus de 1000 espèces dans cette réserve, comme par exemple le singe à ventre rouge, le crocodile nain et un éventail d'espèces végétales. Elle est située à une trentaine de kilomètres de Cotonou et elle s'étend aujourd'hui sur 67 000 hectares. 400 000 personnes vivent dans une centaine de villages et hameaux qui sont eux répartis en trois communes, Abomey-Calavi, Souava et Zé. Cette réserve a été créée par une ONG béninoise, le CREDI, Centre Régional de Recherche et d'Éducation pour un Développement Intégré. Et c'est cette même ONG qui a d'ailleurs plaidé pour faire reconnaître plus largement toute la basse vallée de l'Ouémé, qui inclut la vallée du Sitatunga, comme nouvelle réserve de biosphère au réseau mondial de l'UNESCO en 2020. En fait, Emmanuel, cette réserve est vitale pour la région car elle nourrit une grande partie du Bénin grâce au fleuve Ouémé, au lac Nokoué et à la rivière So.
Alors Raphaël, la société civile africaine se mobilise donc sur cette question du développement des hommes dans le respect de la nature. C'est tout ce qu'il y a de plus compliqué.
Exactement. Et le Crédit ONG est spécialisé justement dans l'accompagnement des communautés dans cette région du Bénin où les populations vivent essentiellement de l'agriculture, de la chasse et de la pêche. Alors comment ne pas les couper de leurs moyens de subsistance sans compromettre la survie des espèces. L'enjeu, c'est d'associer les élus locaux et les habitants du territoire aux politiques de conservation pour créer une génération de villageois citoyens engagés et conscients des problèmes climatiques et sociaux.
Alors tout de suite, on commence par un premier aperçu des problèmes dans la vallée. Nous partons avec vous.
Il y a à peine 7 heures du matin, on est dans la commune de Souava et on embarque en pirogue sur la rivière So. On est dans un bijou de biodiversité, entre forêts, marécages, champs de tourterelles maillées et tisserins gendarmes. Sur la pirogue en bois, Joseph Dossou et Saturnin Amoussou, tous deux membres du CREDI, on part pour une immersion en pleine nature.
Là, quand vous regardez sur le bout de bambou, là, nous avons le martin pêcheur.
Il est bleu turquoise, il est magnifique.
Oui, avec un bec aussi long, qui est un piscivore. Ils sont en train de survoler la rivière pour pouvoir vraiment identifier les petits poissons et plonger pour pouvoir rapidement se nourrir.
On les voit passer au-dessus de nos têtes, ils passent d'une rive à l'autre.
Donc la présence de cette diversité d'oiseaux piscivores dans cette zone montre qu'il y a quand même assez de poissons. Donc ils savent en fait que venir ici, c'est une bonne occasion pour pouvoir mieux se nourrir.
Et justement, en quoi cette zone elle est sous tension, elle est en danger aujourd'hui?
À l'entrée du village là-bas, vous allez remarquer qu'il y a des champs de riz. Les gens en cherchant à cultiver de plus en plus de superficie, détruisent la végétation naturelle et installent leurs champs. Mais ils n'ont pas d'idée de remettre encore en place une autre plantation pour régénérer en quelque sorte le sol. Donc c'est en partie le danger qui guette la disparition de la végétation. Mais de l'autre côté, les ressources halieutiques sont devenues totalement maigres. Les grosses espèces que sont Clarias gariepenus et Heterotis sont de moins en moins retrouvées.
C'est des poissons qui se vendent cher et qui nourrissent beaucoup de monde dans une famille.
Oui.
Et donc c'est là que vous intervenez, vous, Saturnin, auprès de ces populations qui vivent au bord de cette rivière. Comment vous faites ce travail?
Nous essayons de leur montrer à quelle taille faut-il pêcher les poissons afin de permettre à ce poisson-là de se reproduire, d'atteindre l'âge adulte, de se reproduire et de donner beaucoup d'autres poissons, sans quoi ces poissons-là disparaissent.
Mais est-ce que ça marche? Ou est-ce qu'en fait l'urgence pour eux, c'est de nourrir leur famille aujourd'hui et pas forcément de penser à demain?
Pour le moment, étant donné que nous ne couvrons qu'une partie de la zone, ceux qui sont en amont continuent toujours d'utiliser les filets prohibés et même parfois des produits chimiques qui versent dans l'eau, qui permettent de tuer les poissons et de les retrouver à la surface de l'eau. Donc, il y a les forestiers qui sont associés à ce travail que nous faisons et qui en réalité, par la force, arrivent à dissuader ces populations. Mais il faut dire que l'effectif de ceux-là également est encore réduit pour le moment et l'action peine à prendre suffisamment.
Joseph, on se rapproche d'une pirogue de pêcheurs. Trois hommes qui sont autour d'un acadia, donc un dispositif traditionnel de pêche. Et en fait, les filets sont hissés très haut autour de grandes tiges de bambou.
Et là, le filet est vraiment remonté pour empêcher les poissons de s'échapper.
Bonjour monsieur, vous vous appelez comment?
Je m'appelle Dansou Benjamin.
Vous savez à peu près combien de poissons vous avez attrapés?
On ne peut pas savoir exactement le nombre de poissons qu'on a attrapés car on laisse le filet dans l'eau pendant 3 mois. On en vend une partie et on garde le reste pour notre propre consommation.
Est-ce que vous avez remarqué moins de poissons?
Ça fait au moins 30 ans qu'on a remarqué une diminution progressive des poissons. Quand j'allais pêcher avec mon père, on en ramassait plus. Il y a quelques années, avec ce type de pêche, on gagnait jusqu'à 40 000, 50 000 francs CFA parce qu'il y avait assez de poissons. Et on trouvait des espèces différentes. Par exemple, l'hétérotis, le silure, le parachana, le tilapia. Mais aujourd'hui, on remarque une baisse drastique de ces espèces. Ce qui fait qu'on gagne désormais entre 5 000 et 10 000 francs CFA.
10 000 francs CFA, ça fait à peu près 15 euros. Donc ça représente une grosse perte de revenus pour vous, l'épuisement de ces ressources en poissons?
Bien sûr, c'est faute de mieux qu'on continue cette activité. Comme vous le constatez, nous sommes 3 pêcheurs et on se partage les recettes. Ça fait environ 3 000 francs CFA par personne pour 3 mois de travail. En fait, aujourd'hui, on fournit les mêmes efforts qu'auparavant, mais on gagne peu. Et ça ne nous permet pas de vivre.
Oui, vous voyez, 3 000 francs, ça fait 4,50 euros pour un travail de 3 mois. C'est ridicule. Nous sommes dans une zone semi-lacustre. Donc, et on fait ça aussi pour pouvoir apprendre cette activité à nos enfants pour qu'eux aussi ils ne perdent pas la main pour la disparition de cette culture que nous avons héritée de nos grands-parents.
Mais alors comment vous faites pour vous adapter s'il y a moins de poissons, moins de ressources disponibles et donc moins d'activités économiques pour vous?
C'est difficile. On s'adapte. On complète nos revenus avec les activités agricoles pour subvenir aux besoins quotidiens. On cultive du maïs, des légumes feuilles, du piment, de la patate douce, des cultures diversifiées. J'avoue que c'est une situation difficile pour nous.
Est-ce que le fait d'être dans cette réserve naturelle fait qu'il y a des choses qui sont mises en place pour protéger justement les ressources? Est-ce que vous avez entendu parler de certaines solutions?
Oui, l'association villageoise des chasseurs et Crédit ONG veulent creuser des étangs pour développer la pisciculture, l'élevage des poissons. Mais je ne suis pas dans l'association, alors je ne suis pas très bien informé.
Qu'est-ce que vous en pensez de cette solution de faire de l'élevage de poissons en pisciculture plutôt que de la pêche naturelle?
C'est une bonne idée, mais j'aimerais que cette initiative soit aussi accessible aux personnes qui ne sont pas membres de l'association pour qu'on puisse tous en bénéficier. Ce serait un grand soulagement pour nous.
Merci beaucoup, je vous laisse finir de travailler. Au revoir.
Je suis Martial Couderin, je suis ingénieur agronome, je suis le directeur exécutif de Crédit ONG. Nous sommes ici à Zivier, qui est la porte d'entrée donc, de la vallée du Sitatunga, un parc naturel communautaire. Et la vallée du Sitatunga, c'est d'abord un fond humide, une zone marécageuse avec une diversité d'écosystèmes, d'habitats pour la faune, pour les hommes. Cette diversité en fait, d'écosystèmes est importante. Ce sont des écosystèmes qui sont interconnectés. Plusieurs îlots forestiers qui concentrent des espèces qui sont assez rares et menacées, comme les Colla gigantea. Là, nous sommes sous des Caelcedra, qui est une espèce assez vertueuse au regard donc, de sa contenance en aspirine naturelle, une espèce aussi qui est très très recherchée par les populations ici pour se traiter, pour se soigner et qui embellissent un paysage parsemé de palmiers, quelques cases aussi qui sont implantées ça et là à l'intérieur donc de ce parc naturel qui est très beau.
Marcel, pour l'instant, on est dans une allée en terre battue. Il a plu il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, parce que c'est encore un peu humide et on est entouré de verdure uniquement.
Crédit ONG, à la recherche d'un site favorable pour développer la pisciculture en particulier, s'est retrouvé dans ce village en 2006. Et nous avons remarqué que les populations qui vivaient autour se servaient allègrement, j'allais dire, de toute la faune en particulier. On venait nous présenter du gibier, des espèces qui sont normalement inscrites en liste rouge, qui ne devaient pas être chassées, donc qui se retrouvaient dans les plats, dans les casseroles. Et donc ça nous a interpellés. Et donc nous avions décidé en 2006 de faire quelque chose. Et c'est ce que nous avons démarré avec mon frère ami, Damien Martin, qui est un jeune français. Et donc, nous avons fait ce petit chemin de travail avec les communautés à la base, puis ensuite de plaidoyer avec les autorités au niveau communal pour arriver à obtenir des actes de création, en fait, de cette aire protégée. Et comme l'animal le plus rêvé par les chasseurs lorsqu'ils vont à la chasse, c'est cette antilope aquatique qu'on appelle le Sitatunga, et donc on a décidé de donner son nom. C'est comme ça qu'on a commencé à parler de la vallée du Sitatunga.
Qu'est-ce que vous faites? Vous appelez les antilopes?
Oui.
Elle arrive.
Ouais, c'est ça.
Elle connaît son maître.
Ouais.
Donc voilà. On est devant le fameux enclos des Sitatunga. Et donc oui. La particularité de cette antilope d'eau, c'est qu'elle a une tache blanche sous le cou, comme une espèce d'étoile.
C'est ça, c'est une antilope inféodée au marécage.
C'est difficile, c'est ça, de les observer en milieu naturel?
C'est ça. On a fait des estimations d'une centaine en fait de Sitatunga sur la réserve. C'est assez faible cette population-là, et si on n'a que 100 individus, c'est comme si la population, on se demande si elle est viable.
On peut avancer?
Oui, on peut avancer si tu veux. On va faire attention. Globalement, dans notre approche de gestion communautaire, il était simplement important d'amener les populations à comprendre qu'elles ont tout intérêt à préserver ces ressources, non pas pour quelqu'un d'autre, mais pour elles-mêmes, parce qu'elles y retirent leur nourriture. Pour nous, il était important de travailler plutôt dans une approche qui ne veut pas que l'on fasse de la répression. Une fois que la communauté a pris conscience et que aussi on fasse appel à des particularités culturelles, Parce que quand on fouille un peu dans les contes et dans la vie de nos aïeux, de nos ancêtres, il y a quand même des pratiques qui avaient été mises en œuvre et qui ont permis de protéger ces ressources jusqu'à aujourd'hui.
Comme quoi ?
Quand on parle par exemple des forêts sacrées, ces rituels ne se faisaient qu'en forêt. Il y avait cet intérêt à préserver les forêts. Lorsqu'on parle de la chasse, nos parents savaient que lorsqu'on va à la chasse, on ne devait pas tuer des femelles gestantes et qu'on devait plutôt viser les vieux mâles dans les troupeaux. Nous signons un pacte avec les communautés et en particulier les chasseurs. Lorsque nous disons que cet espace est si important que nous décidons qu'il ne sera pas chassé, tout le monde doit respecter cela. Donc nous faisons ce pacte avec une divinité que nous appelons le dieu du fer, qui est très très respecté et craint, pour dire que s'il adviendrait que quelqu'un se hasardait à aller à l'encontre de ce qui a été décidé dans le groupe, ben, il pourra être victime de toutes sortes de sanctions par ce dieu du fer.
Donc si je comprends bien, l'idée de cette réserve communautaire, c'est non seulement effectivement de protéger la nature, mais vous œuvrez aussi au développement économique et social des populations qui y vivent.
Absolument. Sans l'amélioration des conditions de vie, nous ne pouvons jamais arriver à atteindre cet objectif donc de conservation qui sont dans ce milieu-là.
Et justement, en quoi c'est lié ?
Celui qui n'a pas mangé hier soir et qui va trouver un gibier qui passe dans son champ, mais il ne faut pas lui demander de ne pas le buter. Ça, c'est tout naturel. Et c'est pour cela que nos actions un peu sont basées sur l'amélioration en fait, des moyens d'existence durables de ces populations. Nous pensons que c'est possible à travers des initiatives d'entrepreneuriat vert qui doivent permettre de satisfaire les besoins légitimes de ces communautés en termes donc de besoins vitaux.
Vous écoutez RFI, 7 milliards de voisins, reportage de Raphaël Constant. Nous sommes au Bénin, dans la vallée du Sitatunga, et on s'interroge comment protéger l'environnement et les populations locales sur ce territoire, cette réserve naturelle. On comprend la nécessité de co-construire des solutions avec les communautés locales pour préserver les ressources d'un territoire qui est menacé et puis préserver surtout les activités de ces populations, Raphaël.
Oui, et l'équilibre est parfois difficile à trouver justement, et j'ai rencontré différentes communautés, des pêcheurs comme Benjamin que l'on vient d'entendre, des chasseurs, des agriculteurs et même des rois à la tête de royaumes pour comprendre comment cette aire protégée est gérée par et pour les populations locales. On est en fait vraiment à l'opposé de ce qu'on appelle le colonialisme vert qui exclut les populations des territoires en danger. Et vous allez comprendre à quel point il est primordial d'associer les villageois pour développer des activités sans compromettre la nature, comme l'agroécologie, la pisciculture ou le micro-élevage. C'est aujourd'hui vraiment une question de survie, mais ce n'est pas simple, Emmanuel, de changer des habitudes et des modes de vie transmis depuis des générations.
Alors, quelles alternatives sont proposées aux populations qui vivent grâce à l'exploitation de la nature, finalement ?
Alors, les premiers inclus dans le plan de gestion du parc naturel communautaire de la vallée du Sitatunga étaient les chasseurs, car ce sont eux qui ont d'abord remarqué l'amenuisement des stocks en gibier, et ils étaient demandeurs de solutions pour aller vers des pratiques de chasse durables. Le Crédit ONG a alors commencé par faire tout un travail d'éducation à l'environnement et de vulgarisation des textes de loi qui régissent le territoire. Je pense, par exemple, qu'il faut détenir un permis de chasse pour tuer les animaux dans les zones humides, ouais. Respecter la liste rouge des espèces à ne pas tuer, par exemple, etc. Même si on sait bien qu'il y a un écart entre la réglementation et la réalité du terrain.
Alors, comment moins prélever de gibier dans le milieu naturel quand on sait que la population augmente ? Et surtout, comment vivre, finalement, en chassant moins, alors qu'il faut bien remplir l'assiette de la famille le soir ?
Illustration dans la commune de Soava, où on retrouve Saturnin Amosou et Joseph Dossou de Crédit ONG à la rencontre de l'association villageoise des chasseurs.
Saturnin vient d'arriver sur la rive du village de Lokpo. Donc c'est un village qui est posé au bord de la rivière. Autour de nous, on voit que des habitations traditionnelles.
Oui, un village semi-lacustre. Donc, on peut constater qu'il y a des habitations qui sont construites sur pilotis, où les matériaux utilisés, c'est pour la plupart du temps du bambou. Et le toit est couvert par la paille, un matériel précaire. Tout ça à cause du fait que l'eau, à tout moment, peut monter. Il y a des crues dès le début de la deuxième saison des pluies.
On avance. Bonjour.
Moi, je m'appelle Lafassé Jérémy.
Je m'appelle Jérémy Lafassé. Je suis le président de l'association villageoise des chasseurs d'Aomé Lokpo. Ce regroupement de chasseurs est né en 2013 dans le but de prendre soin des îlots forestiers de notre localité, de préserver l'intégrité de nos sols et surtout d'amener les chasseurs à moins tuer le gibier, car depuis quelques années, on a remarqué que certaines espèces d'animaux sont de plus en plus rares ici. Mais grâce à nos actions, ces espèces sont en train de revenir dans la forêt.
Comme quoi exactement? Quelles espèces vous aviez de plus en plus de mal à chasser? Et à quel moment vous en avez parlé, avec qui? Comment ça s'est fait, cette conservation?
Par exemple, les espèces comme le céphalope de Walter, le varan et les olacodes étaient de plus en plus rares depuis 10 ou 15 ans. Mais depuis qu'on chasse moins, on les aperçoit à nouveau chez nous depuis environ 2 ans.
On a discuté avec Crédit ONG de la conservation des espèces animales de nos forêts. On leur a dit que les ressources en gibier s'amenuisaient. Leur discours nous a permis de mieux comprendre qu'en les laissant un temps, ils allaient se reproduire et qu'on pourrait les retrouver à nouveau en quantité. On a alors décidé d'abandonner la chasse pendant un temps et de développer d'autres activités.
Alors justement, pour bien comprendre quels changements ont été abandonnés, est-ce que c'est un sacrifice aussi économique pour vous de moins chasser ?
Avant, on chassait principalement le sitatunga, mais cette antilope est devenue de plus en plus rare. Comme on a arrêté de la tuer, on la voit revenir. Et nos petits-enfants, qui ne l'avaient jamais vue car elle était en voie de disparition, peuvent enfin l'apercevoir quand ils s'éloignent du village. On a aussi arrêté de tuer le crocodile nain qui avait disparu des marécages, et certains singes aussi. On les chassait pour consommer leur chair ou la vendre. Ça a été difficile, mais on a abandonné et aujourd'hui, ces animaux reviennent.
Les animaux qu'on abattait à la chasse étaient consommés ou vendus, et ça nous permettait de joindre les deux bouts. Quand on a abandonné la chasse, on a souffert car on n'avait plus de rentrée d'argent pour payer la scolarité de nos enfants, par exemple. La chasse constituait la majorité de nos revenus. Tout ce que Crédit a installé profite au village, mais aujourd'hui, nous avons besoin de plus d'activités pour diversifier nos sources de revenus et subvenir à nos besoins.
Qu'est-ce que vous avez développé comme activité pour remplacer le manque à gagner de la chasse?
Pour remplacer la chasse, on travaille dans les champs, on a développé l'agriculture. On sème du maïs, du niébé, de la patate douce et on les vend. C'est avec ces activités qu'on arrive à gagner un peu d'argent. On a aussi commencé à pêcher dans la rivière. Ici, dans le village, tout le monde pêche, car entre la semence et la récolte, le cycle est long. Alors on doit pêcher pour vivre.
Sur une saison, on pouvait économiser jusqu'à 200 000 francs CFA par personne.
Ça fait un peu plus de 300 euros.
Mais aujourd'hui, si tu n'as pas tes propres fonds pour financer tes activités agricoles, tu dois emprunter de l'argent pour acheter les semences. Donc à la fin de la saison, une fois le prêt remboursé, tu gagnes entre 100 000 et 150 000 francs.
Joseph, c'est vous qui avez fait cette demande auprès des chasseurs de complètement arrêter la chasse?
On accompagne les chasseurs à adopter des pratiques de chasse durables, de chasse responsables. Et nous ne sommes pas en fait à la répression. En fait, c'est une phase de transition pour une chasse sélective. Et pour essayer de leur trouver une autre source de revenus, on a mis en place ce qu'on avait appelé le microcrédit animal. Accorder à chaque chasseur 3 femelles et 1 mâle de chèvre. De sorte que le chasseur qui a bénéficié de ce microcrédit animal doit pouvoir rembourser aussi en animal, les femelles vont donner des enfants. Ces enfants, je vais les prendre maintenant pour rembourser Crédit. Et Crédit prend pour faire encore un prêt à un autre chasseur.
Donc ça veut dire que vous avez proposé aux chasseurs, en échange de la chasse, de faire de l'élevage animal.
De faire de l'élevage animal. De sorte que si j'ai besoin de l'argent, je peux prélever du stock que j'ai à la maison, aller vendre pour avoir de l'argent.
Ici, au départ, il faut dire que ça n'avait pas marché parce qu'on avait octroyé les animaux à des hommes, des chasseurs. Maintenant, pour le faire autrement, nous avons dit que c'est plutôt aux femmes des chasseurs que nous allons le faire. Les femmes sont souvent à la maison et prennent bien soin de leurs animaux. On peut dire que ça marche parce que depuis un an et demi que j'ai remis les animaux, les 10 femmes qui ont bénéficié de cet appui-là, il y en a déjà 4 qui m'ont contacté, qui m'ont dit qu'elles ont des bêtes, qu'il faut que je passe les récupérer.
Et comment vous avez reçu justement ce discours de la part de Crédit ONG qui est venu vous voir pour vous dire les ressources s'épuisent, vous le constatez, vous êtes chasseur, souvent traditionnellement de père en fils. Comment vous l'avez compris ?
Au début, ils nous ont expliqué le bien fondé du projet de conservation et on l'a compris. Le problème, c'est qu'il y a des habitants de villages du Nord qui viennent chasser chez nous parce que justement, ils ont constaté la présence de plus d'animaux ici. On a été obligé de se défendre et de constituer des équipes de gardiens. Mais certains chasseurs parmi nous se découragent. Ils disent qu'ils n'ont pas suffisamment d'aide pour préserver ces animaux. Certains sont même tentés de retourner à la chasse.
Mais ça veut dire que le fait d'avoir arrêté la chasse, le fait de conserver la nature, finalement, crée des conflits entre les communautés.
Oui, c'est ça, et on se bat entre communautés, et parfois il y a des blessés.
Oui, les gens des autres villages nous créent des problèmes. Notre président a reçu une gifle, un autre ici a reçu des coups de machette. Il frappe avec les gourdins qu'on utilise pour chasser. On en a parlé au plus haut niveau pour trouver une entente, même avec le maire de Suava. Bon, aujourd'hui, on continue de veiller sur nos forêts.
Alors qu'est-ce que vous en pensez finalement aujourd'hui, avec un peu de recul, de cet engagement que vous avez pris d'arrêter la chasse ?
Si l'État n'intervient pas, s'il ne reconnaît pas notre association de façon à la soutenir avec l'aide des forestiers, on n'y arrivera pas. Aujourd'hui, quand il y a des envahisseurs dans nos forêts et que nous contactons les forestiers, soit les téléphones sont hors zone, soit ils ont du mal à nous trouver pour nous aider. Les autres villageois ne craignent pas les civils comme nous, mais s'il s'agit d'hommes armés, là ils ont peur. L'État a le devoir de jouer ce rôle et c'est ce que nous attendons, sinon nos efforts seront vains, ce sera un éternel recommencement.
Là, nous sommes à Zanoudji, qui est le royaume des Aïzo. C'est une ethnie, les Aïzo. Et là, nous sommes dans la forêt qui fait office du palais royal des Aïzo. Crédit ONG, dans son processus de gestion communautaire, a mis en place des organes de gestion. Et de ces organes de gestion, il y a les chefs de village. C'est ceux-là qui représentent l'État au niveau local. Il leur avait été demandé, en fait, de cibler un peu les ressources naturelles disponibles dans leur village. Et nous, on vient maintenant regarder quel est l'enjeu, comment est-ce que nous allons essayer de gérer ensemble ces ressources pour le bien-être des populations.
Saturnin, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous travaillez avec les chefferies comme celle de cette forêt ?
Ici, la particularité, c'est qu'il y a un roi qui s'occupe de la forêt. Et le roi est le seul qui donne l'ordre ou la permission d'aller ou de sortir de cette forêt-là, quelle que soit l'activité à réaliser. Même si c'est pour prendre une brindille, il faut dire qu'à Zanoudji, les têtes couronnées avaient déjà l'intention de prendre soin de la forêt qui constitue en réalité leur patrimoine, leur héritage. Étant donné que la communauté est déjà là, c'est elle-même qui protège son air, nous on s'est dit, transformer cette forêt-là en APAC, air protégé, autochtone et communautaire, permettrait de lui donner un statut et ce statut-là permettrait également que des décisions au plus haut niveau de l'État soient prises et consacrent cette forêt-là afin de pouvoir vraiment la garder dans le temps.
Alors justement, quel projet vous avez construit ensemble et comment le dialogue s'est fait ?
Dans un premier temps, il était question de rassembler les têtes couronnées et la cour, les jeunes, les femmes, et de sensibiliser ensuite les maris qui sont des tradits thérapeutes qui vont chercher des herbes, des plantes pour soigner. On leur a dit, tous les arbres ne sont pas à exploiter non plus, parce qu'il y en a qu'on peut retrouver facilement, mais d'autres, par contre, qui ont du mal à grandir, parce que sans les arbres, les animaux ne peuvent pas rester. Et c'est Crédit ONG qui a contribué à réaliser une ceinture verte, c'est-à-dire à faire des plantations d'acacias, des essences forestières aussi, à croissance rapide, autour de cette forêt-là.
Est-ce que ça a été difficile de convaincre les communautés de changer leurs us et coutumes ?
Partout où nous avons travaillé, ça n'a jamais été facile. Les gens ont bien envie d'adhérer, mais je dirais que c'est surtout les besoins vitaux qui font que il y en a qui, de façon clandestine, vont outrepasser les mesures qui sont prises, qui peut-être se disent « on peut m'arrêter, mais je dois le faire quand même ».
La Vall Citatunga, dans ses activités, s'investit également dans la conservation de nos valeurs. Si nous développons de l'écotourisme dans cette forêt, ça va procurer des revenus aux communautés, ce qui va les motiver en fait à conserver cette ressource naturelle.
Ce qui pourrait les amener à dire « ouais, tiens, on ne peut pas exploiter les arbres, on ne peut pas exploiter les animaux, mais en retour, on a quand même de l'argent qui vient ».
On y va, je vous suis ?
Ah oui, on va vers Sa Majesté.
Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Enoiromiro Aish Dounou Aisho Somorwagado Romance 2.
Vous êtes juste assis devant des roches dans une tenue traditionnelle bleue. Vous avez des grands colliers aussi autour du cou. Racontez-moi.
La tenue que je porte est appelée Danchiki en langue yoruba. On l'appelle aussi Gbalié. On la porte avec un boubou, un agbada. Et le collier que j'ai au cou est sacré. On ne peut pas vraiment expliquer ce qu'il représente. C'est un collier de pouvoir qui est donné au roi et qui le protège contre les esprits des ennemis.
Vous, qu'est-ce que vous avez constaté comme changement, que ce soit dans la nature, que ce soit au niveau du climat ? Est-ce que vos habitudes vous poussent peut-être à aller chercher à manger plus loin, chercher des plantes plus loin ?
Oui, avant la forêt s'étendait sur plus de 100 hectares. Mais la population grandissant, les gens ont eu besoin de terres pour construire et faire de l'agriculture. Donc, la forêt a diminué en superficie et aujourd'hui, elle fait moins de 17 hectares. Nous étions les premiers producteurs de maïs, de riz, de niébé. Mais aujourd'hui, à cause de la destruction des terres, des occupations anarchiques, nous sommes obligés de les acheter ailleurs. Il y a aussi les conditions climatiques. La rareté des pluies fait que nous ne pouvons plus suffisamment cultiver et le rendement n'est plus bon. Cette biodiversité est fragile et aujourd'hui, certaines richesses comme les plantes et les animaux sont en voie de disparition. Cela aura forcément des répercussions sur les générations à venir. Mais depuis que nous avons commencé à faire des efforts pour préserver ces ressources, on voit une évolution et certaines espèces revenir dans la forêt. Par exemple, des hérissons et des biches. Et on a aussi vu, grâce aux caméras installées par Crédit ONG pour observer les animaux, une antilope qu'on appelle T.
Vous êtes une personne d'influence, donc vous êtes quelqu'un de très écouté. Quel discours vous tenez auprès de vos communautés ?
Dans nos séances, on pose la question. Comment était la vie hier et qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui ? D'après vous, qu'est-ce qu'on vivra demain si rien n'est fait ? Et c'est là qu'on amène chacun à toucher du doigt les actions à mettre en place pour conserver ce qu'il y a de bon dans notre nature pour que la génération future puisse, elle aussi, en profiter. On mise sur les conseillers de la cour qui vont répéter dans leur village ce discours de sensibilisation sur les conséquences de nos comportements.
Et aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que l'État et que les ONG qui travaillent à la préservation de la nature prennent en considération vos besoins, les besoins de votre communauté ?
Je vais plutôt parler de Crédit ONG, car elle est à notre écoute et fait de son mieux pour subvenir à nos besoins. Par exemple, nous avons eu des ruches d'abeilles pour faire de l'apiculture et donc de profiter de la forêt sans la détruire grâce à la pollinisation. Et le gouvernement veut nous aider à replanter ce qui a été détruit pour agrandir la forêt de 17 hectares à 60-70 hectares. La mairie devait faire une ceinture autour de la forêt. Et puis, le gouvernement réfléchit aussi avec nous pour voir comment protéger les eaux qui nous entourent ici. J'ai foi et je suis confiant qu'avec toutes ces forces, nos attentes seront comblées. Et dans ce royaume, quand tu deviens roi, tu as l'obligation de prendre soin des tiens et de tes terres. Si tu ne le fais pas, tu seras détrôné et le royaume pourrait disparaître. On doit travailler à ce que notre communauté grandisse, qu'elle reste en bonne santé sur nos terres, et pour ça on doit protéger cette ressource qu'est la forêt.
Donc si je comprends bien, cette terre, cette forêt, elle est à vous, c'est chez vous.
Oui,
Oui, la forêt est sur la terre de nos aïeux. En réalité, cette terre appartient à toute la communauté dont j'ai la charge aujourd'hui. L'État est le seul qui puisse délivrer un titre foncier. Et ici, ce n'est pas possible car il serait émis au nom d'un roi et ce serait ainsi pour toujours. Alors que dans un royaume, le roi est passager. La terre chez nous au Bénin est une terre ancestrale. Les premiers habitants de cette terre en sont les propriétaires et ils la lèguent au fur et à mesure à leurs enfants. Mais quand il s'agit de terres communautaires comme cette forêt, c'est une terre qui appartient à plusieurs regroupements de familles. C'est pour ça qu'il y a des rois considérés comme des administrateurs. Donc, je suis le chef de tout ce qu'il y a ici jusqu'à ce que je ne sois plus là. Traditionnellement, la forêt nous appartient.
Reportage dans le parc naturel communautaire de la vallée du Sitatunga chez 7 milliards de voisins. C'est un reportage de Raphaël Constant. Cette vallée protégée, Raphaël, et on le rappelle aux auditeurs, il faut se rappeler qu'elle est située à 30 km de la capitale du Bénin, Cotonou. On a entendu une des têtes couronnées qui dit qu'il n'y a pas de titre foncier dans les royaumes. Raphaël, pour préserver les ressources et les populations, il faut légalement quand même avoir accès à la terre pour la protéger.
Effectivement, c'est ce que j'ai cherché à comprendre, à qui appartient la terre. En fait, aujourd'hui au Bénin, le pouvoir est décentralisé. Ce sont les communes qui ont le pouvoir de gestion des ressources de leur territoire. Et c'est pourquoi le Crédit a orienté sa démarche communautaire auprès des autorités administratives locales, donc des maires, afin d'obtenir des arrêtés communaux pour officiellement reconnaître que ces zones peuvent être des aires protégées. L'État en fait un rôle de supervision car il a ratifié des conventions de gestion de l'environnement et de protection de la biodiversité. Mais aujourd'hui, il apporte davantage un appui technique que financier. Les ONG manquent de moyens pour coordonner ces activités de préservation.
Alors, en termes fonciers, quel est le défi aujourd'hui dans cette aire protégée, Raphaël ?
La menace la plus importante est bien l'explosion démographique, Emmanuel. Cotonou est passé de 680 000 habitants début 2010 à presque 1,5 million d'habitants en 2021. Et 2,5 millions si on compte l'agglomération, soit une croissance de plus 4% par an. Explication tout de suite de Martial Coudérin, directeur exécutif du Crédit ONG.
Cette vallée est très en danger parce que c'est une initiative qui est partie d'une ONG et nous ne sommes pas les propriétaires de ces espaces. Et c'est une zone en danger parce que l'urbanisation est en train d'arriver. Nous sommes à 20 km de la capitale économique donc, du Bénin, Cotonou. Et donc, c'est une zone qui commence à être, ou à devenir d'ailleurs, le dortoir de beaucoup de personnes qui travaillent à Cotonou et environ. Il faut dire que au départ, nous sommes partis pour conserver et travailler que sur le fond humide en fait de la vallée. Tout ce qui est plan d'eau de façon générale sont protégés par la loi sur les zones humides.
Donc appartiennent à l'État.
Effectivement, ces zones appartiennent à l'État.
Qui représente combien ?
Qui représente environ 5000 hectares, c'est à peu près 10%, on va dire, de l'aire actuelle que nous avons. Mais toutes les terres qui sont autour des forêts et des îlots forestiers appartiennent soit à des collectivités ou qui constituent des propriétés privées et qui, a priori, peuvent décider de faire de leurs terres ce qu'ils veulent d'un moment à l'autre. Et donc aujourd'hui, il est important que l'on puisse définir globalement des conventions en fait, de gestion avec tous ces propriétaires terriens.
Dans quelle mesure cette zone, justement, peut être sujette à la pression et à la spéculation immobilière ? Est-ce qu'on peut envisager une extension urbaine ici ? Ou est-ce que l'emplacement naturel de cette zone est protégé grâce aux zones humides ?
Lorsqu'on regarde un peu Cotonou, il y avait eu des zones humides, il y avait des marécages qui, avec la pression urbaine, ont été bouchés pour être construits. Et donc, je pense que notre vallée, si rien n'est fait, ne saurait échapper à cela d'ici quelques dizaines d'années. Et c'est pour cela que nous travaillons à ce que le statut en fait sécuritaire de conservation de cette aire protégée soit renforcé au niveau donc des élus et au niveau donc de l'État. C'est-à-dire que aujourd'hui les actes de création de cette aire protégée sont signés par des maires et il serait important d'arriver à un niveau où on fait signer des actes par l'État, le gouvernement, qui décrète que cette zone, elle est effectivement protégée. Et donc que cette aire puisse rentrer dans le registre national et par ricochet dans le registre international des aires protégées du Bénin. Et
donc qui deviendrait inconstructible.
Oui, c'est à ce seul titre qu'on peut espérer que cela soit définitivement protégé au niveau foncier. Même si nous savons que le développement est perçu par les communautés locales, il y a la route qui arrive, il y a l'électricité qui vient, il y a des immeubles qui poussent de terre et qui pour eux participent au développement du milieu. Mais lorsque il y a déjà des actes qui sont pris par le gouvernement, en fait, ça bloque un tant soit peu ces processus, je peux dire, d'accaparement de terre pour des projets, soi-disant, de développement local.
Oui, on m'appelle ici Christophe, je suis le chef de l'arrondissement des Inviers. Le gouvernement pendant longtemps a laissé les collectivités qui se sont installées les toutes premières dans les localités du Bénin en général. Et donc ce sont ces collectivités-là qui détiennent aujourd'hui les terres et qui vendent à qui l'expriment le besoin d'en acheter. Dans la réserve, les terres en réalité appartiennent à l'État. L'État à un moment donné s'en est pas préoccupé. Et donc l'objectif c'est que les autochtones, les premiers qui se sont installés dans ces zones de réserve des forêts sacrées, zones qui sont réputées, zones touristiques aujourd'hui, ces collectivités-là ne veulent pas céder ces domaines-là.
Mais ça veut dire quoi que vous demandez à ces populations de quitter ces forêts sacrées, de quitter leurs lieux?
Oui, forcément, on va en arriver là, dans la mesure où aujourd'hui, nous avons vu que l'écosystème est véritablement mis à mal. Donc, on doit forcément protéger ces espaces-là. Si l'État, à travers les collectivités locales, s'engagent formellement et trouvent des moyens pour les reloger ailleurs, leur expliquer le bien fondé de ce que ces endroits-là constituent de potentialité pour eux et pour nous aussi, pour tout l'arrondissement, eh bien, ces populations-là vont partir. Donc, c'est un travail de longue haleine.
Et vous avez déjà des solutions de relogement pour ces populations qui seront éventuellement expropriées ?
Ce n'est pas du jour au lendemain, ça. C'est les populations qui sont installées il y a de cela 50 ans, 60 ans, 100 ans pour certaines populations. On ne peut pas du jour au lendemain les déloger comme ça. Aujourd'hui, parfois même pour ériger des projets structurants, l'État même est obligé de négocier avec ces collectivités qui se sont déjà installées. C'est à l'État de prendre ses responsabilités. Nous, nous n'avons pas aujourd'hui de pouvoir qui puisse nous permettre de déloger les gens.
Alors, est-ce qu'on peut, à un moment, dans un futur proche ou lointain, envisager une extension urbaine, une zone résidentielle, même peut-être une ville nouvelle, ici, dans la vallée de la Sitatunga?
Oui, pourquoi pas? Le gouvernement envisage de construire un nouveau aéroport à Glodjigbé. Glodjigbé, aujourd'hui, est à 5 km de Zinvier. Donc, forcément, Zinvier fera partie des villes de demain.
Qui va donc menacer cette zone, cette aire protégée communautaire, forcément?
Non, pas du tout, pas du tout. L'État va envoyer des gens pour voir comment nous allons faire pour protéger de manière globale ces sites-là, pour que ces sites-là ne disparaissent pas.
Vous ne pensez pas que l'État voudra construire sur cette zone pour en faire une zone résidentielle?
L'État va renforcer en créant autour de ces réserves-là des sites attractifs,
qui pourront permettre donc à des milliers de personnes de venir voir ce qui se fait. En termes de tourisme, on va engranger assez de ressources. Ça crée l'émulation au niveau donc de l'économie locale pour que ce soit véritablement la construction des auberges autour de la vallée de la Sitatunga, la construction donc des aires de jeu, la construction donc des espaces verts qui puissent permettre, quand vous travaillez en ville, que vous venez vous reposer avec la famille, hein, dans des cadres sains, avec certaines commodités en la matière.
Donc vous envisagez quand même un développement immobilier autour de la zone?
Un développement urbain, immobilier, tout ce qu'on peut mettre, tout le package. L'État n'a pas de raison pour que ces sites-là disparaissent. Je ne crois pas.
Moi, c'est Georges Khedigbetan, responsable biodiversité à Crédit ONG. L'urgence principale autour de la vallée de Sagan aujourd'hui, c'est comment arriver à influencer l'urbanisation. Il faut arriver vraiment à amener ces autorités locales à nous aider pour que l'urbanisation soit maîtrisée et que le peu de ressources qui existent soit sauvé. Et que cette ressource, on doit comprendre que c'est le poumon du développement local. Sinon, ça sera un gros problème pour demain. Quand on va dans les zones de zèle, pour l'heure, c'est toujours des zones agricoles, des zones qui produisent en matière d'alimentation, ainsi de suite, pour les zones urbaines. C'est pour ça aujourd'hui, Crédit ONG, avec la vallée de Sitatunga, tente à faire une intercommunalité. Parce qu'on dit ressources communes, solutions partagées.
Donc c'est une façon aussi de responsabiliser les communautés qui vivent sur ce territoire.
Oui, c'est une très belle façon parce qu'on est en train de vouloir mettre les autorités communales au cœur de la gestion pour permettre à ce qu'elles prennent le lead sur cette gestion. La vallée du Sitatunga fait partie de la réserve de biosphère, la basse vallée de l'UND. C'est un label, mais nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. On doit toujours et à chaque fois que le besoin se fait sentir, ramener ou bien expliquer aux autorités à ça là que vous voulez faire attention. Il y a des directives au niveau de l'UNESCO qu'il faut respecter en termes d'air protégé et aussi il faut que vous prépariez demain. Parce que le grand couloir marécageux, les quelques îlots forestiers qui restent seront un patrimoine vraiment très très important et vont aider la ville que cette zone deviendra demain. Nous devons être en veille permanente.
Alors, quel sera le pouvoir d'une veille citoyenne face à la pression urbaine, face aux appétits immobiliers? Est-ce que la gestion prouvera sa durabilité, sa pérennité sur le long terme dans un contexte de réchauffement climatique? Eh bien, l'avenir nous le dira. C'était un reportage de Raphaël Constant dans le parc naturel communautaire de la vallée du Sitatunga pour 7 milliards de voisins avec le concours du PPI. Le PPI, c'est le programme de petites initiatives mis en œuvre par le Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature. À la réalisation, Romain Dubrac. Lundi, 7 milliards de voisins, nous serons de retour pour une nouvelle émission. À lundi, les voisins.
La marche.